Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, donc vous êtes bien sur Oblique pour la 15e, alors pas de sortie ciné, hein, mais alors qu'est déjà sorti donc, sur les écrans, Le secret de la cité perdue avec Sandra Bullock, que tout le monde veut voir autour de cette table.
Oui, tout à fait, mais pour trouver les pépites d'or, il faut savoir creuser dans la boue.
Et qu'as-tu prévu donc aujourd'hui, Victor ?
Ah mais moi, rien du tout. Aujourd'hui, je suis figurant, je suis juste venu faire des blagues vaseuses. Et c'est Loan, notre reporter animalier, qui va nous proposer donc un reportage à propos du film Marche avec les loups. Loan n'est pas disponible ce soir pour nous présenter le film, puisqu'il est lui-même reparti en Nouvelle-Zélande sur les traces de l'oiseau, le cacapou.
Et Yann est absent également et il nous présentera donc la dernière partie des ciné-poèmes de Nicolas Humbert et Werner Penzel. Alors quant à moi, je vais vous parler de Cannibal Man de Eloy de la Iglesia, un film qui sort donc en combo DVD Blu-ray, qui n'est pas, rassurez-vous, un film de cannibale. Mais tout de suite, on retrouve Justine pour l'agenda ciné de la semaine.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Bonjour tout le monde et donc bienvenue dans cet agenda culturel. Alors pour commencer, à partir du 27 avril, le film documentaire Ghost Song de Nicolas Peduzzi sortira en salle au cinéma Diagonal. Alors Ghost Song, c'est une magnifique captation poétique et singulière d'une ville américaine à la dérive où les protagonistes se battent pour survivre dans une ville qui semble dévorer aussi bien les gens que les rêves. Le 28 avril à 16h30, la médiathèque Pierre Vivès nous propose un programme jeunesse avec la projection du film Pixar Coco. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Coco, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de devenir musicien contre l'avis de sa famille et qui, suite à une mystérieuse série d'événements, se retrouve dans le coloré et éblouissant monde des morts. Mardi 3 mai à 20h, le cinéma Utopia organise une séance en avant-première du film L'été, l'éternité, en présence de la réalisatrice Émilie Haussel, qui définit elle-même son film comme un portrait de l'adolescence, avec ses émois, sa solitude et son rapport au groupe, le tout filmé sur les plages marseillaises. Mercredi 4 mai à 19h30, l'association IDES et le collectif Territoire à vivre Montpellier organisent un ciné-débat en plein air sur la grande pelouse du campus de l'université Paul Valéry. Au programme de cette soirée, à 19h30, un repas anti-gaspi de la cantina. À 20h, un débat réflexion sur le projet La Caisse alimentaire commune Montpellier du collectif Territoire à vivre. Et enfin, à 20h45, la projection de Douce France de Geoffrey Couanon. Jeudi 5 mai à 20h30, les Altropismes organisent une séance ciné-conférence avec la projection du film Les champignons hallucinogènes du Mexique de Pierre Thévenard, médecin vidéaste de l'Institut Pasteur. Ce documentaire, réalisé à la demande du professeur Roger Heim, mycologue et directeur du Muséum national d'histoire naturelle, raconte l'histoire passionnante de la découverte de l'usage de champignons par différents peuples amérindiens et témoigne des premières recherches pluridisciplinaires sur ce sujet. La séance sera suivie d'un temps d'échange et vous pourrez admirer sur place des installations permettant de découvrir des univers artistiques inspirés par les psychédéliques. Et enfin, vendredi 6 mai, le cinéma Utopia nous invite à une séance ciné-débat avec la projection du film documentaire « La roue libre » de Sarah Dénard et Marion Valadier. Au programme à 18h30, un petit apéro en présence des associations Fil Rouge, Cyclings, Le Bonheur à Vélo et Le Vieux Biclou pour parler vélo, expérience et cinéma. Et autre chose, hein, si vous avez envie. Et ensuite, à 19h, la projection du film en présence de la co-réalisatrice Sarah Dénard. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt et vous laisse avec Manu pour la suite de l'émission.
Merci Justine. Et tout de suite, donc, la semaine de l'assassin ou Cannibal Man, hein, puisque c'est sous ce titre que sort le film chez Artus. Donc, donc pas de sortie salle cette semaine, mais un film sorti donc en DVD, Blu-ray, de l'espagnol Eloy de la Iglesia, La semaine de l'assassin, ou Cannibal Man, à ne pas confondre avec Alex, puisque je pense que certains risquent de faire un amalgame. Alors, cinéaste de la transgression et de la marginalité, Eloy de la Iglesia est totalement méconnu en France, hein, une injustice que l'éditeur courageux Artus tente de réparer. Alors, sans m'étendre, hein, la filmographie, hein, près d'une vingtaine de films, de ce fervent critique de la société espagnole traite frontalement des sujets tabous, avec un sens évident de la provocation, tels que la délinquance, le franquisme, l'homosexualité, la drogue. Il est l'un des pionniers d'un genre typiquement espagnol, le cinéma quinquin, qui aborde la question de la délinquance juvénile. Il va beaucoup inspirer Pedro Almodovar tout en restant dans l'ombre. De ses thrillers hispaniques, comme l'excellent El Teco de Cristal, à ses drames sociaux quinquin ou kinky, comme El Pico 1 et 2, son cinéma mérite d'être redécouvert par les cinéphiles. La semaine de l'assassin, qui sort sous le nom de Cannibal Man, est peut-être son chef-d'œuvre. Écrit par Antonio Foss et Eloy de la Iglesia lui-même, La semaine de l'assassin dresse le portrait de Marcos, un ouvrier travaillant dans un abattoir. Il vit dans une maisonnette, dans un terrain vague, écrasé par les constructions à venir. Un soir, par accident, il tue sa fiancée, un chauffeur... Il tue pas sa fiancée.
Il tue pas...
Un soir, par accident, il tue devant sa fiancée un chauffeur de taxi. Et ensuite, c'est l'engrenage. Il en fera de même à sa fiancée, la poussant à se dénoncer à la police. Il se retrouve alors pris au piège par sa propre incapacité à surmonter les problèmes, à commencer par son homosexualité refoulée et sa condition de prolétaire. Un point de départ d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler « The Horse That Jack Built » de Lars von Trier. Mais le traitement est bien différent. Là, on mettra 20 secondes de...
D'extrait.
Ah oui, d'accord, oui.
My family the best food that I can find. That's why I give them Flory soup. Because Flory soups have, the flavor of good, rich meat.
Hey, Marcus, drop your work. The chief wants to see me in his office.
The flavor of good, rich meat.
Who knows? Maybe it's a better job.
Marco ne jouit à aucun moment de sa condition, de ce qu'il fait subir à ses victimes. Son manque de communication l'amène le plus souvent à l'irréparable. Baignant dans une atmosphère dérangeante au naturalisme trash, La semaine de l'assassin est une œuvre sèche et brutale, d'une violence inouïe pour l'époque. En empruntant des éléments de pur cinéma d'horreur, Eloy de la Iglesia a pu en partie contourner la censure et livrer, selon ses propres aveux, son film le plus politique. Il se sert d'un genre populaire, le film d'horreur, qui connaît alors un regain dans le monde, et notamment en Espagne, pour mieux le subvertir et proposer un discours radical contre la moralité ambiante et le fascisme. Il y a par ailleurs une idée extraordinaire dans le film. Marcos découpe ses victimes et les amène à l'abattoir pour les broyer et les mélanger avec la viande des boîtes de conserve. De la Iglesia évoque donc l'homme qui finit par se dévorer lui-même, s'autodétruire à force de créer des sociétés répressives où tout désir est annihilé. Alors le film nous renvoie à l'image très forte d'une société qui broie et dévore le corps de ses victimes et en fait des aliments pour d'autres futures victimes. Mélancolique, frontale et désespérée, La semaine de l'assassin est un pur chef-d'œuvre, une descente aux enfers d'un monsieur tout le monde, portée par une mise en scène au réalisme poisseux, par l'utilisation judicieuse des décors, ses lumières crues et l'absence d'effets tapageurs. La dimension métaphorique n'enlève rien au climat sordide, mais apporte une distance bunéalienne à ce grand film. La rencontre... Ah ! Pardon ! Mes feuilles. La dimension métaphorique n'enlève rien au climat sordide, mais apporte une distance bunuelienne à ce grand film, la rencontre improbable entre le néo-réalisme italien et la modernité du cinéma d'horreur des années 70. Alors, victime de la censure à sa sortie, Cannibal Man ressort donc en combo DVD Blu-ray chez Artus dans sa version intégrale et également coupée. On peut voir les deux films. Parmi les bonus, on retrouve notamment Gaspard Noé et puis moi-même pour parler du film et du cinéaste. Et en même temps, sort un autre film, je voudrais le signaler, c'est le film Caltiki, qui est un film italien de Riccardo Freda et aussi un petit peu de Mario Bava, et qui est un peu, on va dire, le film de science-fiction à la Quatermass, les deux films La Marque et le Monstre, les films anglais de la firme Hammer, et c'est un peu leur proposition dans ce style de cinéma de SF. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, on reviendra certainement avec des sorties en salle.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same.
Donc Victor, il est question cette fois-ci de loup.
Oui, tout à fait, mais enfin, sans plus tarder, moi je laisse la parole à Lohan, parce que c'est lui qui a fait le documentaire et donc le reportage sur le documentaire, et nous le remercions d'ailleurs beaucoup.
Merci Lohan.
Alors aujourd'hui, nous allons entendre Jean-Michel Bertrand parler de son documentaire « Marche avec les loups », qu'il a présenté à l'occasion du festival Paul Va au cinéma en février dernier à Nestor Burma, devant une salle remplie d'écoliers, complètement conquis par ce très beau film. C'est le second film de Jean-Michel Bertrand sur les loups, après « La vallée des loups », sorti en 2017. Cette fois, il part sur les traces des loups nomades revenus après 80 ans d'exil dans leur milieu naturel des Alpes et suit jusque dans le Jura un jeune loup qui cherche à créer sa propre meute. Ce film est en partie filmé par la chef opératrice Marie Amiguet qui a récemment sorti un film que vous connaissez sûrement, c'est La Panthère des Neiges, qui a été réalisé par des grands amis de Michel Bertrand. Il y a une scène dans Marche avec les loups qui a marqué le jeune public et qui n'a rien à voir avec des loups d'ailleurs. C'est le moment où Jean-Michel Bertrand déjeune une raclette et la fait tomber par terre avant de pouvoir en avaler une bouchée.
Est-ce que vous étiez vraiment énervé quand vous avez fait tomber votre raclette?
Alors c'est une très bonne question parce que ça raconte un peu, ça me donne l'occasion de vous raconter comment on fait ce type de film. Parce qu'en fait ça s'est pas joué du tout. Ce qui se passe, c'est que moi je passe, on va dire sur un mois, j'ai passé 3 semaines tout seul, à filmer, à essayer de voir les loups, à faire des images de toutes sortes de la nature des animaux. Et puis une semaine par mois, il y a une fille qui s'appelle Marie Amiguet, qui est ce qu'on appelle directrice de la photo, chef opératrice, et qui vient me filmer en fait. Et on remet en scène des choses de ce que j'ai vécu. Et en fait, là par exemple, dans la grotte, j'ai passé beaucoup de temps tout seul, et puis Marie est venue 3 jours. Et pendant 3 jours, ben, elle me filme sans arrêt. Mais tu veux, moi, je la connais tellement, on est tellement habitués à bosser ensemble et tout, qu'elle me filme tout le temps, quoi qu'il arrive. Et puis là, j'ai mangé ma raclette et tout, puis j'ai fait tomber le morceau, et puis j'ai dit, ah, ben, et voilà, ça m'a agacé. Mais c'était pas joué, parce que si je l'avais joué, je suis pas acteur, ça aurait été nul, quoi. Ça aurait été, oh mon Dieu, j'ai fait tomber mon morceau en crotte. Tu vois, j'aurais mal joué. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce type de séquence, c'est que Marie me filme tout le temps. Et après, c'est au moment montage du film, c'est-à-dire quand on a tout le temps qu'elle m'a filmé tout ce qui s'est passé, les 3/4 des trucs, c'est nul ou ça sert à rien. Et puis il y a des petits moments comme ça, comme le coup de la raclette, évidemment ça on le garde dans le film et c'est quelque chose de vivant et de spontané.
Merci pour ce film excellent.
Eh bien merci, merci d'être venu me voir, merci, ça fait plaisir.
Vous travaillez combien en matériel en fait quand vous partez en exploration pour vos documentaires?
Entre le matériel de bivouac. En sachant que le matériel, on bivouac, il y reste. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas bivouaquer à un endroit, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre point de bivouac. C'est un endroit que je choisis, j'y vais pendant des mois. Donc, pendant 6 mois, vous voyez, là, j'ai un trépied, un gros trépied qui est planté dans un coin, là, au fond d'une vallée. Il y est depuis cet été, quoi. Donc, ça, c'est du gros matériel. Quand on doit bouger, bon, voilà, il y a le matériel de bivouac. Et en tout, il y a 50 kilos entre justement trépied, caméra, batterie, bouffe, matos. Mais après, quand le bivouac est installé, j'ai plus que 20 kilos à monter pour aller y passer quelques jours, revenir, je laisse le matos, je reviens, etc. Donc on se débrouille, quoi. Voilà. Mais c'est quand même 50 kilos en tout, mais qui n'a pas à bouger tout le temps. Voilà.
Comment on prépare un documentaire niveau script, scénario, etc.?
Ben, il y a une intention, on va dire, de départ, parce que pour faire un film, malheureusement, il faut de l'argent, et le producteur doit trouver de l'argent au CNC, partout, aux télé, prévendre des chaînes de télé et autres. Et donc, il faut des dossiers, pour faire des dossiers, il faut des scénarios, il faut des projets. Donc moi, je suis plutôt sur des déclarations d'intention, on va dire, où j'invente l'histoire que j'aimerais vivre, et puis après, ben, il y a des surprises, comme l'histoire du Jura. Et pour moi, dans mon scénario de base, le Jura, c'était la conclusion, c'était 5 minutes. Et puis là, ça a pris une demi-heure. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on a, une fois que le film est financé, à moins de vraiment faire un tout autre film, mais il n'y a pas de contrôle, et c'est très bien. C'est-à-dire, après, le film existe, il existe tel qu'il doit être. Donc au départ, il y a une écriture d'intention. Puis après, il y a toutes les rencontres, il y a toutes les opportunités qui font que ça peut bouger. Ce qui est important, c'est qu'au final, le film existe avec des fois des manques. Par exemple, dans ce film-là, je voulais que la mascotte, ce soit l'hermine. Parce que dans le film d'avant, c'était des petites chouettes, justement, la petite chouette chevêchette et tout, que j'adore. C'était un peu la mascotte qui revenait tout le temps. Et les hermines, j'adore ça. Je trouve que c'est un animal complètement incroyable. En plus, le flou, si qu'elles deviennent blancs l'hiver, je veux dire, c'est un truc de fou. Vous vous dites comme ça, vous dites, ouais, elle devient blanche en hiver pour se confondre. Mais vous imaginez le résultat de l'évolution pour en arriver là. C'est colossal. Donc pour moi, l'hermine, j'adore ça. Et on n'a pas réussi à faire d'images assez sympas d'hermine dans Marche avec les loups pour qu'elle devienne la mascotte. Du coup, il n'y a pas d'hermine. Enfin, il y en a une, un petit peu, mais très peu. Voilà, bon, ça n'y est plus. Et puis le Jura, ben, c'était 5-10 minutes, et puis c'est devenu une demi-heure, et puis voilà, ça bouge. Donc voilà, on recolle à l'intention comme on peut, et on vit des choses. C'est pour ça que je disais, moi je suis un peu mal à l'aise avec le côté documentaire, dire que c'est un documentaire. Un documentaire, a priori, c'est quelque chose de on va dire, d'assez froid, qui informe les gens sur des faits. Certains journalistes font des documentaires exceptionnels, justement, sur des faits, des trucs très factuels, etc. Nous, on est quand même dans ce qu'on appelle le documentaire de création. On part un peu dans tous les sens. Ouais, l'histoire du bouquin, de la dame, que j'ai réadapté. Enfin, voilà, je prends des libertés incroyables. En plus, je dis que je suis un loup de chez moi jusqu'au Jura. Évidemment, c'est pas le même loup, donc il y a un côté fictionné. Donc, on est entre deux. Et quand on parle justement de la Panthère des Neiges, justement là, on en parlait encore, et c'est vrai que, par exemple, c'est un film qu'ils ont fait, qui s'appelle Documentaire, mais qui est un film qu'ils ont fait complètement au montage. Parce qu'ils n'avaient strictement rien écrit au départ. Ils ont vécu leur truc, ils savaient qu'ils avaient vécu un truc fort, et au montage, d'ailleurs, c'était une galère pas possible, ça devient un temps fou, mais au montage, ils ont réussi. Ah, voilà, donc vous voyez, quand on parle de documentaire, il y a vraiment de la création là-dedans et de la liberté. Donc on est un peu ambigu, quoi. Mais en même temps, on n'est pas non plus dans la fiction. La fiction pure, c'est autre chose. La fiction pure, c'est un scénario où tout est dedans, tout. C'est un découpage où tout est dedans, tous les plans. Et c'est un mois ou deux mois de tournage. Avec pas un jour de plus, parce que vous avez 40 personnes à payer tous les jours, pas le producteur, et que vous ne pouvez pas déborder. Donc la fiction, c'est vraiment tout à fait autre chose. Alors que moi, vous voyez, par exemple, je commence le film là, au mois de mars, et je serai payé jusqu'en novembre 2023. Mais il n'y a personne à payer. Il y aura Marie, il y aura Boris, enfin, il y a 4 personnes à payer, et une, notamment moi, à vraiment plein temps. Voilà. Alors que sur une fiction, vous avez 40 personnes à payer à plein temps, à bloc. Donc on fait quand même pas de la fiction.
J'ai envie d'en savoir plus sur ces jeunes loups nomades. Moi aussi, je vais quitter la vallée, partager leur voyage solitaire. Je vais suivre mon intuition. Le loup aussi doit suivre ses intuitions. Pipi de loup, sur 200 mètres, il y en a partout. Là, il n'y a pas de doute, je suis sur le territoire d'une meute. Le jeune loup va pas traîner dans le secteur. Là, tout près de nous, la magie, le mystère et les réponses à nos questions les plus fondamentales sont partout.
Merci à Loan, et tout de suite on retrouve Yann pour la dernière partie autour des ciné-poèmes de Nicolas Imbert et Werner Penzel.
Audioblique. Step Across the Border, troisième ciné-poème de Werner Penzel et Nicolas Humbert.
What's the matter, what's the matter? Can't you speak when you spoke to? Life was harder, everything was harder.
Ce troisième ciné-poème des cinéastes Werner Penzel et Nicolas Humbert est en fait le premier dans l'ordre chronologique, réalisé en 1990. Le générique, Ciné Nomade, présente, comme Middle of the Moment, ce nom indique qu'il va être question de nomadisme, cette fois-ci tourné autour de la personnalité de l'artiste et musicien Fred Friis. Le générique, une succession nerveuse, rythmique, de noms de villes à travers le monde entier, Et on va suivre donc Fred Friis, qu'on vient d'entendre ici en compagnie de Tom Cora, c'était le duo Skeleton Crew. On va suivre Friis, tel un globetrotter, dans un film qui se présente comme une improvisation sur pellicule en 16 mm et noir et blanc. Il s'agit donc d'un tour du monde nomade et d'un panorama des rencontres de Fred Friis, humaines et artistiques. Montage sonore issu du film Step Across the Border. On vient d'entendre Fred Friis en duo avec John Zorn, puis en solo, ensuite en trio avec Iva Abitova, violoniste tchèque, et son compagnon Pavel Fasht, en compagnie ensuite d'un percussionniste japonais dont le nom m'échappe, et enfin en train de diriger son propre quatuor de guitare électrique. Plus qu'une succession d'extraits de concerts ou de répétitions, de tournées, Step Across the Border est une illustration très vivante de l'idée, somme toute héritée de John Cage, que tout environnement, toute rencontre, tout objet est en lui-même une source potentielle de création, d'un son à révéler. Fred Friis a enregistré dans probablement sa cuisine, après s'être procuré divers objets qu'il manipule et qu'il fait naviguer autour d'une sorte de pedal steel guitare. Le nom de John Cage a été cité et Friis a cette même qualité d'inventeur bidouilleur, au-delà des concepts, hein, beaucoup plus préoccupé finalement par les contextes et les rencontres avec les gens, la concordance des êtres. Catalyseur de la création artistique. Step Across the Border, c'est un film sur la rencontre, c'est un film sur l'humain, sur la relation humaine. Et c'est à cette philosophie de la musique et de l'art que rend hommage les 90 minutes de l'improvisation, improvisation sur pellicule, des cinéastes Nicolas Humbert et Werner Penzel.
Just wait and see.
Et c'est la fin. Donc, pour finir, puisqu'on a un peu le temps, on peut donner un petit conseil, notamment, Victor, tu en as un ?
Alors, pas du tout. Moi, ce que je pensais dire, c'était tout simplement que l'équipe de Oblique est très curieuse et attentionnée et que nous avons hâte de découvrir tout ce que vous pouvez faire dans votre grenier, qu'il s'agisse de courts-métrages, de longs-métrages, de documentaires, de fiction, d'animation ou de films expérimentaux. Puis, si vous avez envie de nous envoyer des musiques ou des images, on prend aussi. Donc, du coup, notre adresse, c'est obliqueciné@gmail.com. obliqueciné@gmail.com.
Et puisqu'aujourd'hui j'avais hésité entre deux choses, je peux vous conseiller un film, c'est un film d'animation qui s'appelle Ma famille afghane. Alors en adaptant fidèlement le roman autobiographique de Petra Prochaskova, qui s'appelle Freshta, la cinéaste Mikaela Pavlatova réalise un film d'animation très émouvant sur une jeune Tchèque qui va quitter son pays pour épouser un Afghan musulman. Elle va renoncer à sa culture et son mode de vie et accepter donc les privations de liberté. Alors le film évite surtout un double écueil, celui de poser un regard très occidental, assez supérieur comme ça, et aussi celui de la relativité des cultures et coutumes. Je trouve que le film est très juste, il est dans un entre-deux. La réalisatrice signe un très beau film d'animation qui est séduisant et révoltant à la fois, sombre et lumineux, jouant constamment sur ses ambivalences, sur des émotions contraires. Voilà, je le conseille, le film sort donc aujourd'hui et je vous incite fortement à y aller. Voilà, sur ce, on termine l'émission. On remercie donc Anna à la technique, mais aussi les cinémas Diagonal, Utopia, Artus. Et puis derrière Artus, il y a Kevin Boissezon et Thierry Lopez. Et puis à vous deux. Et puis Victor, Justine et puis Yann qui n'est pas là. Donc.
Et puis bisous Lohan.
Et puis bisous Lohan. Donc on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne nuit.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.